Voilà. Alors, comme vous le savez, nous continuons à développer l'enseignement sur le Saint-Esprit. Nous allons continuer à parler du Saint-Esprit pour mieux comprendre ce que la Bible nous enseigne concernant son Esprit, concernant le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors, pour rappel, les deux dernières fois, nous nous étions arrêtés premièrement sur qu'est-ce que la plénitude de l'Esprit? Et nous avions expliqué que la plénitude de l'Esprit, c'était l'état dans lequel le Saint-Esprit ne nous habite pas seulement, mais dans lequel il nous remplit et dans lequel il a toute son influence en nous. On avait dit que tout chrétien normalement converti, véritablement converti, possède le Saint-Esprit à la conversion, comme il est écrit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On ne peut pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Mais Dieu nous appelle pas seulement à avoir le Saint-Esprit qui nous habite, Dieu nous appelle aussi à ce que le Saint-Esprit nous remplisse, à ce qu'il conduise nos actes, à ce qu'il prenne toute sa place en nous pour que nos actes, nos paroles, nos actions, nos réactions soient guidées par le Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas guidés par notre chair, c'est-à-dire par ce qui en nous nous attire vers le mal, vers le péché, par tout ce qui en nous est rebelle à Dieu, mais que nous soyons portés, si vous voulez, conduits, influencés par le Saint-Esprit dans toute notre conduite. La fois dernière, nous avions parlé des effets de la plénitude de l'Esprit. Nous étions arrêtés sur tout un ensemble de versets qui nous montrent les effets de la plénitude de l'Esprit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe quand quelqu'un est rempli de l'Esprit. Et rappelez-vous qu'on avait vu dans le ministère de Jésus, on avait vu dans le ministère des apôtres, dans toute la Bible, combien la plénitude de l'Esprit a des effets. Quelqu'un qui est plein de l'Esprit va avoir un impact autour de lui, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans sa vie de prière, dans son encouragement, dans ses épreuves. La plénitude de l'Esprit a un impact dans tous les domaines de notre vie. Qu'il s'agisse de notre service pour le Seigneur, qu'il s'agisse de notre vie conjugale, de notre vie familiale, qu'il s'agisse de nos moments d'épreuve, qu'il s'agisse de notre témoignage chrétien, qu'il s'agisse de nos finances, qu'il s'agisse de nos relations communautaires, la plénitude de l'Esprit a un impact dans tous les domaines de notre vie, parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ou en tout cas lorsqu'on recherche sans cesse à être rempli du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit nous utilise pour agir au travers de nous. Alors maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir les conditions de la plénitude de l'Esprit. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut pour être rempli du Saint-Esprit? En d'autres termes, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est une autre façon de le dire. Comment une personne peut-elle être remplie du Saint-Esprit? Premièrement, première chose importante pour être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir soif de la plénitude de l'Esprit. Pour être rempli de l'Esprit, nous devons en avoir soif. Nous devons le désirer, nous devons le rechercher, nous devons le vouloir. Nous ne pouvons pas être remplis de l'Esprit si nous pensons que c'est quelque chose de superflu, quelque chose d'inutile, quelque chose qui ne sert à rien, ou si nous croyons que la plénitude de l'Esprit est réservée à certains, si nous croyons que c'est juste les apôtres, les missionnaires, les gens qui font des grandes choses, les conducteurs de louanges ou quoi. Si nous pensons que la plénitude de l'Esprit est inutile, qu'elle est superflue, si nous pensons qu'elle est anormale pour le chrétien, ou si nous pensons qu'elle est réservée à certains, nous n'aurons pas soif de la plénitude de l'Esprit. Premièrement, pour être rempli du Saint-Esprit, nous avons besoin de le chercher, ça. Nous avons besoin de désirer la plénitude de l'Esprit. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui soupire après ça, de se dire, de comprendre que c'est le plan de Dieu que je sois rempli de l'Esprit, de comprendre que c'est le plan de Dieu que le Saint-Esprit me remplisse, et donc d'avoir soif de ça, de rechercher ça, d'être en recherche de cette plénitude. C'est très important. Plutôt que de croire que la plénitude de l'Esprit est réservée à certains ou qu'elle est réservée à certains moments, parce que certains, on pourrait aussi penser que la plénitude de l'Esprit, c'est pour le culte ou c'est pour les moments de prière, etc., etc. Mais en réalité, la plénitude de l'Esprit, c'est pour toute notre vie. Donc, premièrement, nous devons croire, selon la parole de Dieu, on l'avait étudié la toute première fois, nous devons croire que c'est important. Nous devons croire que c'est nécessaire pour nous, pour notre vie. Nous devons croire aussi que la plénitude de l'Esprit, c'est la vie normale du chrétien. Un chrétien normal est un chrétien qui doit rechercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est le plan de Dieu pour tout enfant de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Bien plus que de considérer que c'est quelque chose de normal, nous devons aussi croire, écoute bien, nous devons croire que la plénitude de l'Esprit est indispensable pour la vie du chrétien. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose en plus, ce n'est pas superflu. Ce n'est pas « ah ben oui, bon, on n'a rien à parler ce dimanche, on va parler de la plénitude, on aura du... » Non, c'est important, c'est essentiel. On l'a vu dans les Actes des Apôtres que l'Église ne peut pas avoir un impact par elle-même. Si l'Église n'a pas la plénitude de l'Esprit, elle est comme le CPAS ou comme les scouts, ou comme... elle n'a rien de plus que les autres. Comment est-ce que nous pouvons apporter l'Évangile aux autres? Comment est-ce que nous pouvons annoncer Jésus? Comment est-ce que nous pouvons prier pour des malades? Comment est-ce que nous pouvons être remplis d'amour, de vérité, de justice? Comment est-ce que nous pouvons faire tout ça sans être remplis de l'Esprit? Par nos propres forces? Avec notre petite intelligence humaine, nos petites idées, nos petites expériences? Mais non! L'Église sans l'Esprit est une Église qui n'a pas d'impact et qui ne sert à rien. Ce serait triste d'être une Église qui ne sert à rien quand même. Rendez-vous compte que sans l'Esprit qui nous conduit et qui nous dirige, nous sommes juste des petits bons hommes bien intentionnés qui essayent de faire leur mieux. On va aller parler de Jésus, on va leur dire qu'il est mort pour eux, on fait ce qu'on peut. Ou alors, il y a un malade ici ou un pauvre, on va essayer de l'aider un petit peu, de lui donner... Non, sinon nous ne sommes rien de plus que des gens bien intentionnés. Pour que l'Église soit l'Église, elle doit être dirigée par l'Esprit. Elle doit être remplie de l'Esprit. À titre individuel et à titre de tous ensemble, nous devons être conduits par l'Esprit. Et si vous n'en êtes pas convaincu, cette semaine, relisez les Actes des Apôtres. Et vous allez voir, comme on l'avait vu, le nombre de fois où il est écrit « rempli de l'Esprit ». Paul, rempli de l'Esprit. Pierre, rempli de l'Esprit. Jésus, rempli de l'Esprit. Tant de fois, les chrétiens des Actes des Apôtres étaient des chrétiens remplis de l'Esprit. Donc si nous pensons qu'avec nos propres forces, nous pouvons y arriver, à faire quoi que ce soit de bon, nous nous trompons. Si nous croyons que nous pouvons avoir un quelconque effet spirituel dans notre vie sans le Saint-Esprit, nous nous trompons. Si nous pensons qu'une parole d'encouragement envers quelqu'un peut avoir un effet sans le Saint-Esprit, nous nous trompons. Les effets spirituels ne peuvent être produits que par le Saint-Esprit. Pour que un enseignement, une prédication et un effet sur quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit agisse. La capacité humaine ne suffit pas. Pensez un petit peu, si une prédication c'était juste quelqu'un qui parle pour convaincre ou pour dire des choses intéressantes, ce serait comme un discours. Ce serait comme un discours, il suffirait de bien parler et les gens croiraient ce qu'on raconterait. Non. Si une prédication a un impact, c'est parce que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Si une parole d'encouragement a un impact, c'est parce que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. C'est très important que nous comprenions que ce n'est pas une option. Si nous voulons être la lumière du monde, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit, d'être guidés par l'Esprit. Si nous voulons être témoins de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Si nous voulons vivre une vie agréable à Dieu, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Si nous voulons servir dans le corps du Christ, à l'école du dimanche, à la louange, dans le diaconat, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Si nous voulons porter beaucoup de fruits dans notre vie personnelle, conjugale, familiale, professionnelle, pour le Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit, c'est l'aspiration normale, nécessaire, indispensable de tout enfant de Dieu. Ainsi qu'il est écrit, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est un commandement de la parole. Soyez remplis de l'Esprit. Donc, il faut premièrement que nous considérions que c'est quelque chose d'important, quelque chose de nécessaire, quelque chose d'important d'être rempli de l'Esprit. C'est Tozer qui disait, la vie remplie de l'Esprit. Tozer, c'est un pasteur qui est mort maintenant. La vie remplie de l'Esprit n'est pas une option supplémentaire pour le chrétien, il disait. Ce n'est pas une sorte d'édition de luxe de la vie chrétienne. Elle fait partie intégrante du plan de Dieu pour chaque chrétien. Chaque chrétien est censé être rempli de la vie de l'Esprit. Et voilà un livre de Tozer qui se trouve à Jumet, ici, dans les armoires. Comme quoi, y a tout ici. Donc, voilà d'où ça vient. Enfin, pas celle-là, mais les autres de Tozer qu'on lira, elles viennent de ce livre d'ici, de Jumet. Voilà. Nous avons donc besoin de croire que la plénitude de l'Esprit n'est pas un luxe pour certains chrétiens, mais une nécessité. Nous avons besoin de croire que le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit est une nécessité, et du coup, par voie de conséquence, nous avons besoin d'avoir le désir d'être rempli de l'Esprit, de le rechercher, de le vouloir. Première condition, désirons la plénitude de l'Esprit. Donc désirons mener une vie dans laquelle le Saint-Esprit prend toute sa place en nous, de telle sorte que nous pouvons agir conduit par le Saint-Esprit, de telle sorte que nous pouvons parler conduit par le Saint-Esprit. Deuxièmement, la plénitude de l'Esprit n'est pas indépendante de notre sanctification. La plénitude de l'Esprit n'est pas indépendante de notre sanctification. On sait, par exemple, on l'a bien expliqué, que recevoir l'Esprit, il suffit d'avoir honnêtement confessé ses péchés, de s'être repenti de ses péchés et d'avoir accepté Jésus-Christ, et nous recevons le Saint-Esprit. Mais la plénitude de l'Esprit, ce n'est pas la même chose. Il ne suffit pas d'être chrétien pour avoir la plénitude de l'Esprit. Ça dépend aussi de notre vie, de la sainteté de notre vie, du mode de vie que nous avons. Nous ne pouvons pas être remplis de l'Esprit et vivre dans le péché, c'est impossible. Nous sommes remplis de l'Esprit, au plus nous sommes près du Seigneur, au plus nous obéissons au Seigneur, au plus nous marchons dans ses voies, bien sûr. Quand on voit les apôtres, ce n'étaient pas des gens qui... Non, c'était des gens qui étaient consacrés à Christ, qui servaient Dieu, qui obéissaient à Dieu. Donc la plénitude de l'Esprit n'est possible qu'avec la sanctification. Mais vous le saviez, ça, de toute façon. Mais c'est important de le rappeler. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché est le premier ennemi de la plénitude de l'Esprit. Tout péché dans notre vie est un ennemi de la plénitude de l'Esprit. Nous ne pouvons pas être pleins de l'Esprit et vivre dans le péché. C'est Romains 6 qui nous dit « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres, votre corps, votre personne, comme des instruments de justice. » Ça veut dire que le chrétien est appelé à ne pas offrir son corps au péché, c'est-à-dire à ne pas utiliser son corps pour le péché tout simplement. Pour le dire en d'autres termes, nos corps ne doivent pas être des instruments d'iniquité, de péché. En d'autres termes, ma bouche ne doit pas être une bouche de médisance, de mensonge, d'insulte, de grossièreté. En d'autres termes, mes mains ne doivent pas être des mains de vol, de violence, de haine. Mon cœur ne doit pas être plein de jalousie, de vengeance, de manque de pardon. C'est tout ça que ça veut dire, en fait, ce verset. Mais au contraire, nous devons offrir nos membres, nos personnes à Dieu, tout ce que nous sommes, notre personne à Dieu, comme serviteurs, comme instruments de justice. Nous devons vivre une vie dans laquelle nous n'acceptons pas d'être livrés au péché, mais nous vivons une vie au service de Dieu, de sa volonté, de sa parole. Nous rejetons le péché et nous nous donnons à Dieu. Tout péché non confessé attriste le Saint-Esprit. Vous savez ça. Tout péché qu'on a dans notre vie et qu'on ne confesse pas attriste le Saint-Esprit et l'empêche de nous remplir et d'avoir toute son influence sur nous. Nous devons donc refuser de livrer nos membres au péché, ne pas nous mettre au service du péché, mais offrir toute notre personne à Dieu, au service de sa volonté. Mais étant affranchis du péché, devenez esclaves de Dieu, la Bible nous dit. Que nous puissions nous livrer à la justice de Christ et que nous puissions nous livrer à Dieu. Que toute notre vie soit à Dieu. En fait, la vie, la plénitude de l'Esprit, il ne faut pas croire que c'est un truc mystique. Il ne faut pas croire que c'est réservé pour certains. Non! Je vis une vie de sanctification, je rejette le péché, je rejette le mal et je m'offre à Dieu. C'est la première voie pour être rempli de l'Esprit. Parce que l'Esprit prend toute sa place dans une vie d'obéissance et de vie avec le Seigneur. Nous devons donc mourir à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos convoitises charnelles, renoncer à tout ce que notre corps nous demande, renoncer au mal, à la haine, à la méchanceté, à la médisance, aux critiques, à tout ce que nous savons ne pas être le plan de Dieu pour nous, à tout ce que nous savons que la Bible condamne, nous devons rejeter ces choses et nous offrir à Dieu. C'est Watchman Nee qui disait, l'homme, Paul, qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez que l'apôtre Paul a dit ça, hein? Bon, ça, on le dit souvent dans les gens. On dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Watchman Nee dit, mais avant d'avoir dit ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis crucifié avec Christ. Donc si nous voulons que Christ vive en nous, ce qui est quelque part très en lien avec la plénitude de l'Esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, le Saint-Esprit porte, conduit, dirige ma vie. Si nous voulons cela, nous devons d'abord accepter d'être crucifiés avec Christ, c'est-à-dire de faire mourir dans notre vie tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. de faire mourir dans notre vie tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va aussi nous aider à cela. Ce qui est très particulier à comprendre aujourd'hui, pendant le temps qui nous reste, c'est de comprendre que, en même temps, pour être rempli de l'Esprit, nous devons renoncer au péché, d'accord ? Au mal, à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais en même temps, nous ne pouvons renoncer au péché que par le Saint-Esprit. Vous voyez, un petit peu, tout est en lien. C'est particulier, hein, ça. C'est-à-dire qu'en même temps, oui, je dois renoncer au péché pour être rempli de l'Esprit, mais en même temps, pour que je renonce au péché, il faut que le Saint-Esprit agisse en nous. C'est l'Esprit qui nous aide à crucifier en nous, c'est-à-dire à tuer, à faire mourir en nous tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et donc, nous devons accepter de laisser aussi le Saint-Esprit nous conduire. La sanctification, ce n'est pas une œuvre humaine que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit aussi en nous qui nous dirige, qui nous conduit. Ça ne touche pas, ça ne fait pas, ça ce n'est pas ma volonté. Il nous dirige et nous conduit dans notre vie de tous les jours. Prenons des exemples simples, parce que vous êtes là en train de vous dire, mais de quoi est-ce qu'on parle, la sanctification, les machins ? Situation de vie. Vous êtes là, ça n'arrive plus maintenant, vous êtes là, chez eux, à votre travail, c'est le moment de la tasse de café. Vous aimez tous le café, à Jumeur. Voilà que vous arrivez, vous vous asseyez, je peux avoir un petit café, oui, un petit café. Bon, vous vous asseyez et la conversation commence et vous voyez que la conversation porte sur Jacqueline ou Caroline ou Véronique ou n'importe qui, disons Véronique, qui est la collègue du bout du couloir. Et voilà que les autres sont en train d'expliquer, Véronique, elle est bizarre, elle ne comprend jamais rien, elle s'habille mal, elle s'habille comme une je ne sais pas quoi, on ne sait pas d'où elle sort, et voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Donc c'est ça aussi le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit aussi qui va nous conduire dans ce genre de situation pour connaître quelle doit être ma position pour plaire à Dieu, vous voyez ? Et donc la vie de l'Esprit, c'est aussi une vie dans laquelle je refuse de participer à ça. Parce que vous savez, on sait participer facilement, hein. Il suffit de rigoler, hein. Une petite rigolade. Ah oui, c'est vrai que l'autre fois avec sa jupe là, oui. Ah oui, c'est vrai l'autre fois quand elle était venue avec son foulard. Et voilà, on pêche. Autre situation, voilà que vous êtes devant la télévision, vous vous dites, oh, qu'est-ce qu'on joue ce soir ? Oh là là, qu'est-ce qu'on va regarder ? Il y a plein de programmes, je ne sais pas quoi, et voilà. Dans cette situation-là, où on sait qu'il y a des programmes qui plaisent à Dieu, d'autres programmes qui ne plaisent pas à Dieu, ben voilà que nous devons choisir. Nous devons choisir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est ça aussi la plénitude de l'Esprit. C'est aussi, l'Esprit nous conduit dans la sainteté. Je donne un exemple, mais c'est un exemple pour dire que, voilà, à l'heure de la journée, en journée, d'accord, donc on est en pleine journée, on nous passe sur certaines émissions, sur certaines chaînes, ce qu'on appelle une émission qui s'appelle « L'île de la tentation ». Voilà. Si vous êtes chrétien et que vous avez déjà regardé ça, vous avez un problème. Bon, ça c'est une parenthèse fermée. L'île de la tentation. Voilà une île où les gens vont pour tester leur amour envers leur conjoint. Est-ce que le Saint-Esprit va me conduire à regarder ça ? Est-ce que le Saint-Esprit va me conduire à apprécier ça ? Vous voyez ? C'est des petites choses comme ça. Alors, je dis que ça se passe en pleine journée parce que les enfants sont là, hein, c'est pas... Vous voyez, un petit peu, à quoi le Saint-Esprit va nous conduire. Donc, nous devons faire mourir en nous tout ça. Faire mourir en nous tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce que nous savons ne pas plaire à Dieu pour marcher dans sa volonté, pour agir selon sa volonté. C'est la Bible qui dit dans Galates, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est terrible, hein, ça. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, bien sûr que nous péchons, bien sûr que nous tombons, mais nous devons être dans cette dynamique-là. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le chrétien doit être parfait. Ça veut dire que le chrétien doit être dans cette dynamique-là, dans cette recherche-là, dans cette volonté-là de faire mourir la chair avec ses passions, ses désirs. Et Galates 5 nous dit que la chair, avec ses passions, ses désirs, c'est la débauche, l'impureté, les rivalités, les querelles, les jalousies, la cupidité, l'amour de l'argent. Tout ça, en fait, ne plaît pas à Dieu. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grandes choses. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et nous consacrer à Christ. Vous connaissez ce verset qui nous dit « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps, à offrir votre personne comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, Dieu nous appelle à offrir toute notre vie, tous les domaines de notre vie à Dieu. Et c'est une condition. Nous devons nous consacrer dans tout ce que nous sommes, dans tous les aspects de notre vie, de notre personne, à Dieu pour faire sa volonté. C'est la condition normale du chrétien que d'être dans cette dynamique, de s'offrir tout entier dans tout ce qu'il est à Dieu. Tozer dit que nous devons rechercher à avoir un cœur pur. C'est ça, ça par contre, ça vient de ce bouquin. Voilà. Comme ça, vous savez. Vous aimez bien savoir, donc voilà. Il nous dit que la plénitude de l'esprit nécessite d'avoir un cœur pur. Voici ce qu'il dit, Tozer. Il dit, faites de vos pensées un sanctuaire propre. Pour Dieu, nos pensées représentent quelque chose. Nos pensées sont les décorations du sanctuaire où nous vivons. Si vos pensées sont purifiées par le sang du Christ, nous vivons dans une chambre propre. Et qu'importe si vous êtes habillé et couvert de graisse, vos pensées décident de votre caractère, de la température et du climat de votre cœur. Et Dieu considère vos pensées comme faisant partie de vous. Pensées de paix, pensées de pitié, pensées de grâce, pensées de gentillesse, pensées de charité, pensées de Dieu, pensées du Fils de Dieu, ce sont des choses pures, bonnes et élevées. Par conséquent, si vous cultivez l'esprit, vous devez prendre en charge vos pensées. Vous devez prendre en charge vos pensées et interdire à votre cerveau d'être un lieu sauvage dans lequel toutes sortes de bêtes impures entrent. Vous devez avoir un cœur pur. C'est bien dit, hein ? C'est bien dit. Une condition importante, avoir un cœur pur, avoir une vie sainte pour être plein de l'esprit. C'est très important. Troisièmement, et on n'en a plus pour très longtemps, nous devons aussi chercher à marcher par l'esprit. C'est Galates 5, 16 qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et un autre verset, toujours dans Galates 5, pour Olivier, c'est au verset 25, Galates 5, 25, toujours dans le même. Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Qu'est-ce que dit ce verset? Le verset dit, si nous vivons par l'esprit. En d'autres termes, le chrétien, il vit par l'esprit. Parce que même notre conversion, même le fait que nous soyons devenus des créatures nouvelles, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Notre vie spirituelle, notre vie avec Dieu, pour Dieu, a pour source le Saint-Esprit. Nous vivons par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous pour nous faire vivre spirituellement. Mais si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Nous devons marcher en étant conduits par le Saint-Esprit. On a déjà dit là maintenant que le Saint-Esprit va nous guider vers certaines actions qui plaisent à Dieu et va nous éloigner d'actions qui ne plaisent pas à Dieu. Il va sonner la trompette en nous. Donc nous devons, non seulement nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit conduire notre vie. C'est l'Esprit qui doit nous diriger, nous conduire. C'est l'Esprit qui va, comme nous l'avons dit, nous conduire dans les chemins de la sainteté. Mais pas seulement dans les chemins de la sainteté, aussi dans le chemin du service de Dieu. C'est l'Esprit qui va nous montrer ce que Dieu nous appelle à faire. Va nous montrer, vous savez qu'il est écrit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Eh bien, c'est l'Esprit qui va nous conduire à dire, ah, ça Dieu m'appelle à faire. Ah, moi Dieu m'appelle à servir dans telle chose, dans tel domaine, dans tel... Voilà, le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit. Tout cela nous amène donc à marcher selon l'Esprit, comme dit la Bible, à nous affectionner aux choses de l'Esprit, à aimer les choses de l'Esprit, les choses de la volonté de Dieu, à aimer la parole de Dieu, à aimer la volonté de Dieu, à aimer le règne de Dieu, à aimer la prière, à aimer tout. C'est ça en fait, l'Esprit va nous conduire dans la sphère de ce qui plaît à Dieu, dans la sphère de ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons aussi marcher par l'Esprit. Vous savez, peut-être que vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'Esprit? Mais tous, nous avons déjà fait l'expérience de ça. Tous. Nous avons déjà senti en nous une impulsion pour faire quelque chose, par exemple. Une impulsion pour servir une personne en difficulté. Une impulsion pour envoyer un email à quelqu'un, un SMS à quelqu'un, pour téléphoner. On a tous déjà senti l'Esprit qui nous conduit à faire quelque chose. Dieu qui nous interpelle pour faire quelque chose ou pour ne pas faire quelque chose. On a tous déjà senti ça. Qu'est-ce qu'il faut donc faire ? Il faut faire taire notre chair, c'est-à-dire faire taire tout ce qui en nous appartient au vieil homme, appartient à notre ancienne nature, appartient à ce qui ne plaît pas à Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse nous parler davantage. En d'autres termes, plus nous faisons taire la chair, plus nous entendons la voix de l'Esprit en nous. Plus nous faisons taire notre personne humaine, plus nous pouvons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Plus nous faisons taire la chair, plus l'Esprit nous parle, nous conduit, nous dirige. Nous devons donc aussi évidemment demeurer dans l'amour, demeurer dans une vie d'amour. Tout ça, c'est important pour la plénitude de l'Esprit. Demeurer dans une vie d'amour, une vie de pardon, une vie de bienveillance, une vie de miséricorde, une vie de vérité, une vie de service à l'autre, une vie d'amour, une vie motivée par l'amour. Vous savez que la Bible dit que tous vos actes soient motivés par l'amour. C'est beau hein, quand même. Que tous vos actes soient motivés par l'amour. Nous devons donc demeurer dans une vie d'amour si nous voulons être pleins de l'Esprit. Mais aussi, et pour terminer, deux dernières choses pour vivre la vie pleine de l'Esprit. Premièrement, dans ces deux dernières choses, nous devons demeurer dans les disciplines spirituelles. La plénitude de l'Esprit, elle va avec une vie sainte, on l'a dit, avec une vie d'obéissance à Dieu, de volonté, de recherche de ce que Dieu veut, mais aussi elle va avec une vie de communion avec Dieu. Dieu ne doit pas être dans notre vie un étranger que l'on côtoie de temps en temps, quand on a une difficulté ou quand on a que ça à faire. Bon, ben, je n'ai rien à faire là, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je vais prier 3 minutes, ça va me faire du bien. Non, la plénitude de l'Esprit, elle vient aussi au plus nous nous attachons à Dieu et au plus nous voulons demeurer dans ce qu'on appelle les disciplines spirituelles. Nous devons chercher à développer et à maintenir notre relation avec Dieu dans la présence de l'Esprit. Vous savez que lorsque nous nous présentons devant Dieu, c'est toujours par Jésus-Christ dans la présence de l'Esprit. Nous prions le Père par le Fils dans la présence de l'Esprit qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous instruit dans notre prière. Et donc, pour être rempli de l'Esprit, il faut être au contact régulier avec le Saint-Esprit, dans la prière. Mais au contact aussi avec le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'étudions, eh bien nous nous mettons en contact avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la parole, dans le jeûne, dans la prière, dans toutes ces choses. Nous cultivons notre relation avec Dieu. Et lorsque nous cultivons notre relation avec Dieu, eh bien nous demeurons dans l'Esprit. Et une dernière chose pour la plénitude de l'Esprit. On l'avait lu dans Colossiens et dans Éphésiens. La plénitude de l'Esprit, elle est aussi liée à notre vie communautaire. Il est écrit, ben vous le savez, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. » Nous devons donc avoir une vie de communauté, une vie ensemble, une vie communautaire dense, dense, intense, dans la parole de Dieu. Une vie communautaire dans laquelle la parole de Dieu habite en abondance. La parole de Dieu au centre de notre vie communautaire. Une atmosphère communautaire dans laquelle nous nous édifions mutuellement. Une atmosphère communautaire dans laquelle nous louons Dieu par des cantiques, par des psaumes, ce que nous avons fait aujourd'hui. La louange est très importante pour la vie d'une église et pour que nous puissions être remplis de l'Esprit. Mais aussi une atmosphère communautaire faite de prière, d'obéissance à Dieu, de respect mutuel, de crainte de Dieu. Une vie communautaire intense en prière, en obéissance, entraîne pour l'Église et pour chacun la plénitude de l'Esprit. Recherchons ensemble à être remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons encore chanter sur base de tout cela. Chanter pour mener une vie remplie de l'Esprit. Et nous voulons chanter ce chant qui dit « J'ai décidé de marcher dans la vérité ». Le 259 dans les recueils, qui est un chant de consécration, un chant d'engagement, puisque nous avons bien montré que pour être rempli de l'Esprit, pour être plein de l'Esprit, conduit par l'Esprit, nous devons vivre une vie d'obéissance à Dieu, de renoncement au péché. Nous voulons chanter ce chant. J'ai décidé de marcher dans la volonté, dans la vérité. J'ai décidé de marcher dans la sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Oui, c'est ça notre engagement aussi pour être rempli du Saint-Esprit.